Bonsoir et bienvenue dans Nord Politique, l'émission politique de la rédaction de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. En ce jeudi 10 septembre, dans un mois tout juste, le premier tour de la primaire socialiste, les 9 et 10 octobre prochains. On va en parler d'ailleurs ce soir avec notre invitée Sarah Kerich-Bernard, la première secrétaire de la Fédération du département du Nord pour le Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va évoquer les enjeux locaux de cette primaire socialiste, les personnalités, avec évidemment donc aussi des sujets d'actualité qui concernent la région pour cette primaire socialiste. Et puis la place de la Fédération socialiste du Nord aujourd'hui dans le débat avec ses personnalités. Et je le disais, ces enjeux, 25 minutes à débattre avec vous, c'est parti. Une petite question d'actualité d'abord avec vous, Sarah Kerich-Bernard, puisque c'est dans notre ADN sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Je ne sais pas si vous êtes venu en voiture jusqu'à nous, mais le prix de l'essence, forcément, concerne aujourd'hui des millions de Français, des milliers de nordistes. Ne pas réduire la pression fiscale, comme l'a annoncé hier le gouvernement, au vu de l'état des finances publiques, est-ce que ça se comprend ?
C'est totalement irresponsable. Aujourd'hui, on a des gens, des familles entières qui sont assignées à résidence. Avec ce prix de l'essence qui dépasse de loin désormais les 2 euros au litre, c'est des week-ends que des familles passent chez elles et ne peuvent pas aller faire des loisirs, partir en vacances ou même juste aller travailler. Et moi qui viens de la campagne en périphérie de Lille, je vois la place de la voiture au quotidien. Et donc il faut impérativement baisser les taxes si on veut pouvoir faire en sorte que les gens puissent tout simplement vivre et aller travailler.
Mais même si ça se fait au détriment des finances publiques, comme l'a dit le gouvernement, des finances qui sont déjà dans un...
Ce sont des choix politiques. Nous, on a des solutions. On peut baisser les taxes sur l'essence d'un côté et de l'autre, on peut tout à fait imposer les plus riches. Nous, on propose et on a proposé avec Olivier Faure la mise en place de la taxe Zucman. Il faut désormais aller chercher des recettes et permettre aux plus faibles et malheureusement à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir vivre décemment, de pouvoir le faire.
En tout cas, l'État doit intervenir quand c'est aujourd'hui une crise sensible depuis plusieurs mois sur le...
C'est son rôle et c'est même primordial.
Je le disais, la primaire socialiste et ses enjeux locaux, c'est l'objet de ce débat que l'on va avoir tous les deux ce soir avec Sarah Kerich-Bernard, première secrétaire du PS du Nord. D'abord, la Fédération du Nord, c'est combien de militants aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a 2000 militants actifs, donc c'est l'une des plus grosses fédérations du PS. Et surtout, notre particularité, c'est qu'on est sur l'ensemble du département, de Maubeuge à Dunkerque, et on a toujours une très forte culture militante et ouvrière. Ça vient de l'histoire de ce qu'est le PS Nord, et on est assez fiers, et je suis fière aujourd'hui de la représenter et de pouvoir la faire perdurer.
C'est une fédération qui compte au niveau national, qui pèse ?
Oui, parce que c'est une fédération qui a fait l'histoire du PS avec Pierre Mauroy, Martine Aubry, mais c'est aujourd'hui des nouveaux visages, une nouvelle génération qui reprend la main et qui compte bien continuer à faire perdurer cette tradition de combat pour nos valeurs et pour tout simplement une France plus juste.
En parlant de tradition, c'est aussi un territoire qui peut servir d'avenir, enfin de laboratoire pour l'avenir ?
Bah, tout à fait. Nous, on a connu la désindustrialisation et aujourd'hui, on appelle à réindustrialiser le territoire et à faire la transition écologique, la transition aussi dans les transports, du ferroviaire, des transports publics. On peut servir effectivement de laboratoire pour la France qu'on désire et qui soit plus juste pour tous.
C'est quoi les sujets qui font écho ici dans l'actualité nationale, des sujets prioritaires peut-être pour les habitants de la région et du Nord ?
C'est tout d'abord augmenter les salaires. Moi, je le vois, nos concitoyens du Nord et du Pas-de-Calais, en ce qui concerne, que je croise tous les jours. Aujourd'hui, le travail ne protège plus de la pauvreté. Donc, il faut de manière impérative augmenter tous les salaires et pas seulement le SMIC. Nous, on propose avec Olivier Faure que le SMIC soit augmenté à 1690 euros net par mois, mais aussi augmenter les plus bas salaires. Parce que je rencontrais encore tout à l'heure une agent de la région de France. Il y a 20 ans, l'écart entre son salaire et le SMIC était de 400 euros. Aujourd'hui, il n'est plus que de 50 euros. Donc nous, dès le lendemain, j'espère, de l'élection présidentielle, si on gagne, on réunira tous les syndicats pour une conférence sur les salaires. Il faut que le travail puisse permettre de vivre dignement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, vous le voyez, on vient de passer un été infernal avec des conditions climatiques qui mettent en danger les enfants, les personnes âgées et les plus faibles. Et donc, on doit absolument accélérer dans la transition écologique, les écoles, les bâtiments publics et des transports publics accessibles à tous pour éviter d'avoir comme ça un air pollué et caniculaire.
Il y a déjà un programme socialiste, hein, finalement, peu importe cette primaire, on y reviendra, hein, des personnalités qui sont en lice, mais il y a déjà un programme en fait qu'avec les militants vous avez travaillé ces derniers mois. En parlant justement peut-être de réchauffement climatique, la question du logement aussi est essentielle et des passoires thermiques. Vous annoncez zéro passoire thermique en 2050, ça fait quand même beaucoup de logements à rénover, notamment ici dans le Nord.
On peut accélérer, nous on propose la création d'établissements publics régionaux qui prennent en charge la supervision de la rénovation des logements. On ne peut pas laisser faire le privé au cas par cas, ça met trop de temps. Et ça permet aussi d'embaucher, de faire de l'emploi. C'est la priorité, bâtiments publics, écoles, collèges, lycées bien sûr, mais aussi surtout les logements privatifs. Aujourd'hui, il y a trop de passoires et on peut tout à fait atteindre cet objectif. C'est possible si la puissance publique organise les délais et se fixe des objectifs ambitieux.
En termes de vision socialiste, c'est sûrement l'encadrement des loyers peut-être aussi qui peut être élargi. On l'a vu tout récemment, il y a eu quand même des progrès à Lille. On est quand même encore parfois au-dessus, mais cette part de logement au-dessus du prix plafond a diminué, semble-t-il, ça porte ses fruits.
Tout à fait, c'est une fierté que nous ayons mis en place à Lille, comme à Paris, comme dans d'autres villes socialistes, cet encadrement des loyers, ça fonctionne et c'est bien la preuve qu'il faut désormais la généraliser, l'élargir pour éviter voilà, la spéculation malheureusement sur le prix du loyer qui est voilà, une nécessité. Ce sont des charges que personne ne peut éviter. Donc il faut continuer. En tout cas, on est content de voir que cette mesure qui avait été instaurée par un gouvernement socialiste et qui est reprise et appliquée par des mairies socialistes puisse aujourd'hui permettre à de nombreux concitoyens de pouvoir ne pas avoir, dès le 5 du mois, 2/3 de son salaire qui partent dans le loyer.
Elle est remise en cause aussi, je crois, quand même, hein, cette mesure d'encadrement des loyers.
Elle est débattue actuellement par nos parlementaires, mais en tout cas, nous, on la défendra jusqu'au bout parce que c'est une mesure de justice sociale et aujourd'hui, l'accession à la propriété devient de plus en plus difficile. Avant, on pouvait être propriétaire à 20-30 ans. Aujourd'hui, l'entrée sur le marché de l'emploi n'est plus synonyme d'achat et de propriété. Donc, il faut qu'on puisse, à minima, avoir des loyers décents pour ensuite pouvoir passer, on l'espère, à l'accession à la propriété pour l'ensemble des foyers de notre pays.
Et à défaut d'être propriétaire, hein, souvent, on a un logement social, l'habitat social, il y a une pénurie de l'offre dans le Nord. On est à 5 demandes pour une offre. Comment on fait pour résoudre ce problème?
Tout d'abord, il faut diminuer la pauvreté. Et l'explosion de la pauvreté, je vous le disais aujourd'hui, le travail ne protège plus de la pauvreté. Donc on a comme ça des familles entières qui tombent dans des trappes à précarité et qui ne s'en sortent pas. Ce qui fait qu'on reste très longtemps en logement social, là où c'est normalement une solution temporaire, le temps de gagner mieux sa vie et de pouvoir en sortir. Donc si on augmente les salaires déjà, vous sortez de la pauvreté et ensuite il faut accélérer les chantiers, on l'espère avec une reprise en main de certains établissements publics d'office HLM pour répondre aux problèmes aussi du quotidien que les gens rencontrent malheureusement dans certains de ces habitats.
La réquisition aussi de bureaux vacants, et si on regarde ici dans le Nord et dans la métropole lilloise, il y a quand même des centaines, des milliers de mètres carrés de bureaux vacants. Ça c'est possible? C'est légal?
C'est tout à fait possible, c'est
tout
une décision
dit,
du préfet.
Personne ne le fait.
Parce que c'est une décision du préfet, donc de l'État. Donc nous on appelle aussi l'État à pouvoir mettre en place ce type de solution. Surtout, là, on va rentrer dans l'automne puis l'hiver, à l'approche de la trêve hivernale, il faut que tout le monde puisse se loger. Et donc, on appelle à ce que ce type de solution puisse être mise en place.
Concernant l'agriculture, puisque là aussi, c'est un sujet d'actualité, après cet été caniculaire et de sécheresse, vous souhaitez garantir un revenu digne pour les agriculteurs, mais peut-être réduire les engrais, les pesticides. Est-ce que dans la région, où on a notamment les betteraves et les pommes de terre, c'est pas contradictoire?
Vous savez, aujourd'hui, le nombre de cancers pédiatriques a explosé. Le nombre de cancers pour les gens de moins de 40 ans a explosé. Et on est presque à doubler le nombre de cancers d'ici 2050. Donc, quand on réduit les engrais, ce n'est pas pour empêcher nos agriculteurs de pouvoir produire. On a des solutions de bio, d'agriculture bio, d'agroécologie, d'agriculture respectueuse de l'environnement qui se développent. C'est vrai que ça met du temps et qu'une transition d'un champ normal en champ bio, ça met un peu plus de 5 ans. Donc nous, on veut des aides à la transition.
Mais quand cette on entend transition, les agriculteurs, et j'en reçois régulièrement en plateau,
bien sûr.
Pour eux, sans engrais, aujourd'hui, sans pesticides, c'est pas possible d'avoir
c'est
un
revenu. C'est pour ça qu'il faut aider à cette transition-là. Et entre-temps, par exemple, des revenus de transition qui puissent aider à pallier la perte des premières années. Mais c'est aussi pour eux et leurs familles qu'on s'adresse en premier lieu. Parce que le nombre, je parlais des cancers, mais aussi des cas d'infertilité pour des enfants de ces familles-là ou qui ont grandi pas loin des champs, et c'est le cas de beaucoup d'enfants du Nord-Pas-de-Calais, malheureusement, on peut pas ignorer ce problème de santé publique qui les concerne avant tout, eux et leurs familles.
Cette aide à la transition, elle coûterait des milliards d'euros pour tous les agriculteurs. C'est pas possible, c'est pas un peu utopique?
Déjà, il y en a qui arrivent très bien. Moi, je connais aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont réussi cette transition-là vers le bio, vers l'agroécologie.
Surtout sur des cultures plus modestes, pas comme les champs.
C'est vrai que nous, notre particularité, c'est que ce sont de grandes exploitations. Donc c'est peut-être aussi un modèle d'agriculture intensive à revoir. Il faut nourrir tout le monde, il faut nourrir évidemment la France, mais aussi à exportation, et ça c'est un de nos points forts. Mais il ne faut pas pour autant fermer les yeux sur le problème qui est que ces agriculteurs sont malheureusement dépendants. Et à un moment, ces engrais seront bien interdits, on a beau repousser l'interdiction, ça arrivera un moment, et si on ne les aide pas à sortir cette dépendance, ils vont être les premières victimes de ça.
Dans le projet socialiste aussi, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, vous souhaitez modérer l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Quid donc des centres de données d'intelligence artificielle qu'on a annoncé à grande pompe ces dernières semaines dans la région?
Il faut faire attention parce qu'on annonce beaucoup de choses. On a annoncé effectivement la vallée de la batterie. On voit qu'aujourd'hui, des choses sont en train de se créer, mais en termes d'emploi, c'est pas encore ça. Pareil pour les data centers. Déjà, c'est très énergivore en termes de consommation d'eau et d'énergie. Ensuite, nous, on est pour recentraliser effectivement la data en France pour éviter de dépendre des big tech américaines ou autres qui ne seraient pas sur le territoire français ou européen. Donc c'est une bonne chose de pouvoir les renationaliser, les recentrer en France, mais aussi attention à ce qui est un peu, on va dire, de l'idée de la formule magique. C'est pas parce qu'on va faire la vallée de data center que ça va tout résoudre. Nous, on appelle à faire attention à l'IA, pas à rejeter l'ensemble de l'IA. Il y a des bons côtés de l'intelligence artificielle, mais ça met aussi des filières entières en danger. Donc il faut penser les transitions de l'intelligence artificielle avec les filières concernées dans certains de ces emplois.
Mais ce serait possible aujourd'hui de la limiter en France, en Europe, de la contrôler, cette intelligence artificielle, sachant qu'elle est mondialisée?
Mais tout est possible. C'est-à-dire, si la loi décide aujourd'hui d'interdire l'IA dans certains domaines, c'est le cas par exemple dans l'éducation. Aujourd'hui, on a malheureusement beaucoup d'étudiants, d'élèves qui cèdent de l'IA pour faire leurs devoirs. Donc ça ne facilite pas forcément les apprentissages. C'est possible tout à fait d'encadrer ces usages qui sont, à mon avis, de mauvais usages et de les réserver à des usages, on va dire, plus récréatifs ou en tout cas qui ne mettent pas en péril soit l'apprentissage, soit des emplois.
Et puis encore un sujet d'actualité régionale à évoquer avec vous sur ce projet socialiste. Il y a le procès de 14 passeurs présumés responsables d'un terrible naufrage en novembre 2021, en ce moment à Paris. La crise migratoire, on fait quoi? Les accords du Touquet? Comment on peut régler ce problème? Ça, c'est une vaste question.
Déjà, la France a besoin de main-d'œuvre. On est aujourd'hui en baisse démographique et donc il est illusoire de penser qu'il faut une immigration zéro, comme le propose l'extrême droite, ou aujourd'hui, malheureusement, la droite de plus en plus. On a besoin de faire venir des gens qui souhaitent travailler en France et qui ont les compétences pour travailler en France. Et donc, dans beaucoup de filières, nous, on plaide pour qu'il y ait des voies d'immigration légales et qu'on puisse sécuriser ces accès-là. Si vous voulez, si vous ne faites aucune voie d'immigration légale, malheureusement, il se passe ce qui se passe en Méditerranée ou dans la Manche, à savoir, chaque semaine, des tragédies, des morts, parce qu'on ne sécurise pas des voies d'immigration légale. Et nous, on veut que ce soit sécurisé, contrôlé, pour éviter que ce soit les réseaux de passeurs, effectivement, qui s'en emparent et qui donnent lieu au spectacle désolant et attristant qu'on a malheureusement chaque semaine.
Mais la plupart de ces migrants, faut le dire, sont plutôt anglophones, veulent aller en Angleterre. C'est là où il y a un Eldorado pour finalement arrêter cette crise. On peut renégocier, par exemple, les accords du Touquet. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça?
On peut tout à fait les renégocier. Nous, on plaide pour que la frontière ne soit pas à la limite française, mais bien du côté anglais, comme c'était le cas avant les accords du Touquet. Et je vois M. Bardella qui allait signer un accord avec l'extrême droite anglaise, faux accord, c'était une mise en scène, pour demander à ce que l'Angleterre puisse renvoyer de manière totalement illégale les migrants sur le territoire français. Donc j'ai envie de dire, l'extrême droite est prise à son propre jeu. Aujourd'hui, il faut sécuriser des voies légales et permettre à ceux qui veulent de pouvoir traverser en sécurité les frontières, tout en contrôlant et en sécurisant les accès.
Alors il y a évidemment d'autres propositions, c'est un livre de 144 pages qui est disponible en ligne pour ce programme socialiste. Tout ça, c'est un programme d'union et peu importe le candidat. Et je crois que Chloé Ridel, qui est députée européenne, a dit que ce sera le projet du Parti Socialiste, pas le projet de tel ou tel candidat.
Tout à fait.
À quoi bon la primaire dans ce cas?
La primaire sert aussi à départager une incarnation. Vous avez plusieurs candidats. À l'heure actuelle, les candidats, on va dire, les plus connus sont Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste que je soutiens. On a également Raphaël Glucksmann, président de Place Publique. Il y en a d'autres, c'est Ségolène Royal, je pense. Aujourd'hui, la primaire sert à défendre une incarnation. Mais le projet Le Socle, il a été voté par tous nos militants en juin dernier, et c'est notre projet de société, plus largement qu'un programme de gouvernement, qu'on doit affiner selon les alliances et selon les partenaires possibles. C'est un projet Socle, et donc on espère bien que tous les candidats vont s'en inspirer ensuite pour faire, eux, leur programme un peu plus concret de mise en œuvre de ces propositions.
Est-ce qu'il faut une primaire un peu plus large encore, vers Marine Tondelier chez les écologistes, Mathieu Pigasse, François Ruffin?
Moi, je défendais une primaire de toute la gauche. Ce n'est pas le choix qu'ont fait les militants socialistes en juillet dernier. Donc, on fait d'abord une primaire de la famille socialiste. Moi, j'espère qu'Olivier Faure pourra la remporter. Et ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il faudra discuter avec tout le monde, les écologistes, François Ruffin, d'autres personnalités de gauche, pour pouvoir converger en vue de la présidentielle. Parce que, in fine, moi, j'espère bien qu'il ne restera qu'une candidature du bloc socialiste-écologiste sur la ligne de départ pour l'emporter dès le premier tour et, on l'espère, ensuite au second tour.
Tout le monde à gauche, mais il y a quand même une rupture avec la France insoumise. Le socialisme assume peut-être une part de radicalité dans ce programme pour aller chasser sur les terres de la
FI ? Non, on existait avant eux, peut-être qu'on existera après eux. Nous, on est une radicalité tranquille, on n'a pas besoin de vituperer comme ça pour affirmer qu'on est de gauche. Moi, j'ai aucun problème avec les électeurs de la France insoumise qui sont aussi à la recherche d'un programme de gauche de rupture et nous, on le défend. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est lui-même exclu de la gauche et il sera de façon candidat. Donc, on doit s'organiser pour avoir face à cela et à côté de cela, une candidature qui, elle, pourra gagner au second tour, ce qui n'est pas le cas de M. Mélenchon.
Cette rupture avec la France insoumise marque quand même peut-être aussi une rupture dans le militantisme du Parti Socialiste, hein, dans le Nord notamment. Vous m'avez dit 2000 adhérents, c'était quand même 5 ou 6 fois plus.
C'est le cas de tous les partis, vous savez, tous les partis ont énormément perdu d'adhérents parce que c'est plus un mode d'engagement. Mais il n'empêche que nous sommes la première formation politique du département.
Ils sont allés où alors, vous pensez, ces militants ? Ils ne militent plus ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tradition qui est moindre. Moi, mes grands-parents étaient ouvriers. Et en fait, on prenait sa carte au parti, au syndicat. C'est aussi une tradition et un changement générationnel. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas attirés par les élections, la politique. C'est juste un mode différent de s'engager. On s'engage de manière plus ponctuelle, peut-être plus en milieu associatif. Mais les partis politiques sont toujours au centre de la vie publique. Et c'est de notre devoir aussi de proposer des candidats et des programmes pour pouvoir gagner les élections.
Alors peut-être qu'on peut aussi écouter justement ces électeurs, en tout cas ces nordistes, on est allé leur poser la question, savoir comment les partis, notamment le Parti Socialiste, peut reconquérir les électeurs. On écoute.
Aller chercher son électorat, parce que je pense que dans les campagnes notamment, l'électorat est beaucoup plus à droite, notamment par un manque de présence peut-être de la gauche.
De faire en sorte de se rassembler, d'arrêter de se tirer dessus sur les plateaux, d'arrêter de tirer, que ce soit sur Jean-Luc Mélenchon, sur Marine Tondelier.
Ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment être hyper clair dans les programmes, parce qu'on entend énormément de trucs, il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux. Donc vraiment essayer d'avoir une plateforme où le programme est hyper clair pour les candidats.
Bon exemple, je sais pas s'il est bon, mais en tout cas un exemple de cette perte des militants, ou en tout cas d'un transfert des militants, c'est dans le bassin minier, en fait, pas mal de villes qui étaient à gauche, et à la limite, peu importe, hein, communistes ou socialistes, mais qui ont été gagnées par le Rassemblement National. Et comment vous expliquez ce transfert, souvent du vote ouvrier, peut-être, d'un bord à l'autre ?
Alors, quand on regarde dans le détail, il n'y a pas de transfert d'un bord à l'autre. C'est souvent des électeurs qui ne votaient plus ou qui s'abstenaient, voire qui étaient partis à droite, qui ensuite votent RN. Donc, il y a un peu un mythe de dire des électeurs socialistes ont voté du jour au lendemain RN. C'est pas le cas quand on regarde et il y a des recherches de sciences politiques là-dessus. Après, ce qui est certain, et j'entends parfaitement ce que disent les gens que vous avez interrogés, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux, il y a beaucoup de choses, et on n'arrive plus à filtrer, à trier l'information. Donc, c'est aussi notre devoir être clair dans ce qu'on propose dans les programmes politiques, et ensuite de proposer une incarnation crédible pour les porter.
C'est-à-dire que quand vous nous dites que la France insoumise vitupère, c'est qu'il y a un discours extrême qui plaît et que le PS est trop lisse ?
Je ne sais pas si c'est un discours extrême, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon donne l'impression de vouloir rompre avec le système établi. Alors, il a été pendant plusieurs dizaines d'années sénateur élu socialiste, donc c'est une drôle de rupture. Mais en tout cas, il y a cette impression d'intransigeance. Et moi, je veux rappeler aujourd'hui aux gens qui nous écoutent que le PS n'a rien perdu à gauche, cette intransigeance, et qu'il faut faire confiance à la nouvelle génération qui arrive pour la porter au pouvoir. Parce qu'encore une fois, Jean-Luc Mélenchon peut faire de belles promesses, mais ne gagnera pas au second tour et risque même de faire gagner l'extrême droite face à lui.
Vous avez vu certains de vos militants partir chez LFI ?
Non,
revenir.
Non, ce n'est pas du tout ça. En fait, les choses ont évolué. Des personnes arrêtent de militer. On a aujourd'hui des jeunes qui reviennent parce qu'on a une élection présidentielle et tout le monde prend l'enjeu de celle-ci. Donc c'est plutôt un renouvellement de génération qui se fait, comme dans n'importe quelle formation politique ou association ou club de sport, que sais-je. En tout cas, aujourd'hui, je le redis, il y a une nouvelle génération d'élus, de militants qui sont prêts à prendre la relève et qui sont là pour ne pas promettre n'importe quoi, mais pour faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait.
La dernière élection en date, c'était évidemment les municipales 2026. Est-ce que le Parti Socialiste, comme on a pu le lire dans le Nord, a quand même sauvé l'essentiel en gardant Lille, notamment Douai ou Denain ?
Bah, moi, je suis très fière de ces élections municipales. On a effectivement un nouveau maire de Lille, Arnaud Deslandes, qui a pris le relais de Martine Aubry. On a beaucoup de maires qui sont engagés dans leur commune et donc C'est pour ça que je vous dis que c'est un bon bilan pour nous et que ça nous renforce dans notre place de formation politique de proximité et en première ligne pour ces élections municipales.
Est-ce qu'à Lille, Arnaud Deslandes, il doit prendre plus de place médiatiquement pour le Parti Socialiste ?
Ce qui compte aux yeux des Lillois, c'est qu'il soit, des Lomois, des Lémois bien sûr, avec les communes associées, c'est qu'il soit un bon maire et je pense qu'il est un bon maire. En tout cas, Martine Aubry a laissé un bilan formidable à la tête de cette ville et lui et son équipe, parce qu'il est entouré aussi d'une équipe bien chevronnée, ont su prendre la relève. Donc ce qui compte, c'est ce que disent les Lillois, et comme les Lillois l'ont très largement élu, j'ai peu de doutes sur ce qu'il est en capacité de faire.
Mais il ne faut pas une personnalité forte aussi, vous le disiez, pour incarner, on avait Martine Aubry, et dans un autre genre, hein, Xavier Bertrand, qui porte un peu la région sur le plan médiatique national, et lui est à droite, est-ce qu'il ne faudrait pas un maire de Lille plus fort nationalement ?
Je vois pas trop ce que vous voulez dire. En fait, ce qui compte, c'est d'être au service des habitants. Donc, tant que les résultats sont là, tant que les habitants sont heureux et sont fiers aussi de ce que portent leur maire et leur équipe municipale en termes de politique publique, vous savez, le reste, c'est du média. Donc, non, je vois pas trop le sens de tout ça.
Pour cette primaire socialiste, il y a eu plusieurs personnalités, enfin plusieurs personnalités vont certainement venir dans la région. Il y a François Hollande qui vient à Carvin samedi à la Brocante. Des doutes sur sa candidature, pour l'instant ça c'est pas pesant pour le Parti Socialiste ?
Moi j'ai du mal à comprendre ce que fait François Hollande. Il est adhérent socialiste, il a été ancien président de la République, ancien premier secrétaire du PS. Il y a une primaire du PS. Donc je l'invite à y participer, parce que c'est cette primaire qui départagera les candidats, comme d'ailleurs il a été élu notre candidat en 2011, à l'issue d'une primaire qu'il avait lui-même remportée. Donc je pense qu'après cette primaire, il n'y aura rien d'autre.
Ça manque de clarté aujourd'hui, sa position ?
Il n'y aura pas de candidat qui émergera après la primaire socialiste. Les électeurs de gauche auront tranché, et donc ceux qui souhaitent candidat, il serait préférable pour eux de s'inscrire dans le cadre de cette primaire, oui.
Liévin, l'ancien maire et vice-président de la Fédération du Pas-de-Calais d'ailleurs, a perdu hein, face à un candidat du Rassemblement National, mais il a été entre guillemets recasé, chargé de mission à la mairie. Ça vous dérange pas ce mélange des genres ?
Si, je trouve ça extrêmement dérangeant. C'est dérangeant parce que j'entends que Laurent Duporge était fonctionnaire en détachement, donc il a retrouvé ses fonctions, et j'espère vraiment que d'autres perspectives s'offrent à lui, parce que je trouve ça dérangeant de rester au service d'une administration qui est désormais d'extrême droite. Donc je vous le dis ici, je trouve ça très dérangeant, et je veillerai à ce que ça puisse prendre fin rapidement.
C'est la Fédération du Pas-de-Calais, donc c'est pas de votre ressort, mais vous souhaiteriez, si vous étiez premier secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais, sa démission ?
En fait, je ne sais pas s'il est à jour de cotisation ou pas. Moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui sont retournés dans leur service suite à cette élection municipale. Et donc, j'attends de voir. Peut-être qu'il y a d'autres perspectives qui s'offrent à lui. Il faut bien travailler. Donc, c'est normal aussi qu'il retrouve un travail. Ce n'est pas facile, vous savez, pour les élus qui partent des élections. Parfois, on est resté élu pendant très longtemps. Et donc, on a comme ça...
Il était fonctionnaire de métier, finalement, il y retourne.
Exactement. Mais en fait, c'est la loi. Il n'y a rien d'illégal. C'est réglementaire. Il retourne automatiquement dans son administration d'origine, qui était la mairie d'Yvain. J'espère pour lui que les choses vont évoluer. Effectivement, ça donne une image dérangeante d'être au service d'une administration qu'on a soi-même combattue lorsqu'on était maire.
Vous préfériez qu'il aille taper à côté à la mairie de Lens, qui est socialiste ?
Je ne suis pas au courant de ces détails-là, mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il va pouvoir retrouver effectivement du travail et que ça va bien se passer.
Au rayon des jeux de pouvoir, il y a eu la démission tout récemment d'Olivier Carmel, hein, le maire de l'Homme, qui dénonce peut-être une section de fédération qui n'est pas pilotée. En tout cas, le manque d'ambition du PS, c'est quoi votre réponse ?
Moi, je trouve ça dommage parce que M. Carmel démissionne en regrettant que le PS soit divisé, mais sa démission crée elle-même de la division. Donc, je trouve ça un peu paradoxal. Bon, après, chacun porte ses choix. Moi, je sais ce que je fais à tête de cette fédération depuis désormais plus de 4 ans. Nous avons eu de belles élections, nous avons retrouvé des députés, nous avons des sénateurs qui se battent aussi, et nous avons conservé des places fortes avec les municipales. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Attention quand même au discours un peu populiste de recroquevillement. S'il fait le choix uniquement de sa ville, c'est une bonne chose en tant que maire, mais c'est pas une vision politique globale. L'avantage des partis politiques, c'est qu'ils portent une vision. Et moi, je défends cette vision de justice sociale, justice environnementale. Je pense qu'on la partage, donc j'ai pas très bien compris cet épisode, mais bon, c'est pas très grave, ça le regarde lui en premier lieu.
Mais c'est presque cohérent, finalement, son discours, puisqu'il nous dit qu'aujourd'hui, les partis politiques, c'est quasiment même un boulet, il préfère y aller lui-même, hein, entre guillemets, porter sa propre voix. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, quand on parlait des militants, aujourd'hui, qui ne militent plus, et tous les partis politiques qui ont perdu des adhérents. Finalement, dans son discours, il y a une forme de cohérence.
C'est sa liberté, s'il préfère... Ne pas être adhérent dans un parti politique, c'est son choix. Ce qui est sûr, c'est qu'être adhérent, c'est une histoire de conviction profonde. Et si on ne se sent plus en adéquation, on est libre de partir. À partir de là, moi, j'ai pas grand-chose à y redire.
La semaine dernière, c'était la braderie de Lille. Le seul candidat socialiste qu'on a aperçu, c'est Jérôme Gage. C'est dommage pour vous de ne pas avoir vu les autres. Ça aurait pu être un temps d'échange.
Non, vous savez, la braderie, comme le disait Martine, c'est le rendez-vous des Lillois. Et donc... Il y a des candidats qui viennent faire campagne. C'est avant tout un moment pour les élus locaux de se retrouver et d'être au contact des habitants de la population. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres temps de campagne pour les candidats dans le Nord-Pas-de-Calais que la braderie.
Et puis, avec le sourire, vous n'avez pas été quand même jalouse du coup de force de Jean-Luc Mélenchon ?
Non, Jean-Luc Mélenchon est venu. C'est pas la première année, en fait. C'est quand même plusieurs fois qu'il fait ça, donc pas de surprise de notre côté.
Mais c'est vrai qu'il a quand même rassemblé du monde autour de sa tribune. Oui. L'image est forte.
Il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient juste sur la braderie. Donc c'était un moment où toutes les rues étaient pleines. L'image est forte, mais je vous invite à dézoomer. Et je pense que cette braderie a connu des records de participation. Il faut aussi féliciter les services de la ville, les équipes de la ville pour la bonne tenue de ce temps.
Merci beaucoup Sarah Kirisch-Bernard, je le rappelle, première secrétaire du Parti Socialiste du Nord. Et puis je rappelle les dates de cette primaire socialiste, les 9 et 10 octobre pour le premier tour, 16 et 17 octobre pour le second tour. On ne manquera pas bien évidemment d'en reparler. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Marine Kijek pour l'édition, la réalisation de cette émission. Très belle soirée à toutes et à tous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.